Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
8h21, merci Benoît Hamon d'être resté avec nous pour dialoguer merci avec les auditeurs d'RTL. Elisabeth Martichoux nous a bien entendu rejoint. Avant justement de leur céder la parole, une question tout à fait précise et liée à l'actualité qui concerne François Fillon. Avez-vous, vous, en tant que député des Yvelines et en tant que parlementaire, fait travailler ou travailler des proches, des amis autour de vous?
Non.
Ça n'a jamais été le cas?
Non. Non, j'ai des collaborateurs, je les remercie, ils ont bien travaillé d'ailleurs. Mais non, j'ai pas fait travailler ma famille.
Vous connaissez la rémunération de vos collaborateurs en tant que parlementaire?
Oui, elle est à peu près la plus élevée, doit être un peu en dessous de 3000 euros.
Vous en avez combien d'ailleurs, puisqu'on peut en avoir jusqu'à 5?
J'en ai 3.
Merci.
Ben voilà. J'en ai deux, un qui est en circonscription, un qui se partage entre la circonscription et Paris, l'autre à Paris.
Votre assistant parlementaire en circonscription, il peut ne pas venir à Paris, ne pas être à l'Assemblée nationale, presque jamais
Il passe forcément parce qu'on a des réunions. On a des réunions avec mes collaborateurs, mais j'ai une permanence que je loue en circonscription et dans laquelle il reçoit les citoyens de ma circonscription qui font des demandes, font des propositions. On a énormément d'activités dans une permanence parlementaire. Donc, et moi-même, je me partage entre ma permanence et mon bureau à l'Assemblée nationale. Vous savez tout maintenant.
Et nous savons tout et nous donnons la parole à nos auditeurs. Bonjour Serge, merci beaucoup d'écouter RTL. Vous allez pouvoir interroger Benoît Hamon qui vous écoute.
Oui, bonjour monsieur Hamon.
Bonjour monsieur.
Voilà. Je voudrais savoir si vous trouviez cohérent de vouloir donner un revenu universel de 700 euros à des gens qui n'ont pas encore travaillé par rapport à des gens qui ont travaillé 40 heures par semaine et qui touchent une retraite de 700 à 800 euros.
Alors, question sur le gap générationnel que génère par définition le revenu universel.
Mais il faut bien commencer à mettre en œuvre ce revenu universel. J'entends parfaitement la remarque que vous faites et l'objectif à terme du revenu universel, c'est bien qu'il soit généralisé et qu'il vienne compléter la distribution d'une pension. J'insiste sur ce point parce que il est évident qu'aujourd'hui on a énormément de retraités ou de personnes ou de seniors même qui continuent à travailler, qui sont dans une situation financière qui est une situation financière difficile. J'insiste sur la spécificité qui est celle de la France qui rend très très difficile aujourd'hui l'insertion professionnelle des jeunes. Elle se distingue d'ailleurs la France de ses voisins européens sur ces questions-là. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas éligibles aux minima sociaux, les 18-25 ans, là où ils le sont dans beaucoup d'autres pays européens. De surcroît, ils ne perçoivent pas d'indemnité chômage parce qu'ils n'ont pas cotisé auparavant. Enfin, regardons la situation. Un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. 75% de ceux qui ne sont pas étudiants connaissent ou la pauvreté, ou le chômage, et surtout la précarité.
25% sont au chômage.
Oui, 25% sont au chômage et 75% de ceux qui ne sont pas étudiants connaissent ou le chômage ou la précarité, c'est-à-dire avec des contrats courts. Et surtout, je veux insister là-dessus, leur insertion...
La question est sur la retraite. Hein.
Oui, non, mais pourquoi j'insiste sur le fait qu'on commence par les jeunes? C'est qu'ils connaissent, eux, d'ores et déjà, les transformations du travail. C'est-à-dire que le travail ne sera plus comme il était auparavant, parce qu'il y a la révolution numérique, mais surtout parce qu'on voit se développer des formes de travail non salarié de plus en plus importantes. Et ces alternances entre travail salarié, contrat court, travail non salarié, supposent que l'on adapte notre protection sociale à cette nouvelle réalité.
Est-ce que dans votre version du revenu universel, on cumule sa retraite et le revenu universel? Est-ce
Absolument.
Que les deux coexistent?
Absolument, mais on ne pourra pas y parvenir du jour au lendemain, je l'ai redit, il faudra plusieurs étapes. La première étape, c'est donc les 18-25 ans. La seconde, que nous discuterons dans une conférence citoyenne et sociale, posera la chronologie de la généralisation, son financement, le périmètre de ce revenu universel, c'est-à-dire ce qu'il couvre, ce qu'il ne couvre pas. Je vais prendre un exemple.
Oui.
Les allocations logement. Le revenu universel doit-il se substituer aux allocations logement quand il sera versé ou pas? Ce sera une question mise sur la table. Moi, il me semble qu'il pourrait couvrir les allocations logement. Mais nous en discuterons pour voir de quelle manière monter en puissance sur cette prestation dont je rappelle qu'elle sera un nouveau pilier de notre sécurité sociale, comme nous l'avons toujours, depuis maintenant plus de 60 ans, étoffé pour s'adapter aux réalités qui sont celles de notre économie et du travail.
Merci Serge. Bonjour Thierry. Vous nous appelez d'Ormesson dans le Val-de-Marne et vous allez pouvoir interroger Benoît Hamon qui vous écoute.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Hamon. Je vous ai entendu et j'ai lu que vous aviez plaidé en faveur d'une abrogation de la loi travail. J'aurais souhaité savoir comment et par quoi vous allez remplacer les droits que cette loi travail ouvre aujourd'hui pour les salariés, notamment sur les congés, sur la négociation d'entreprise.
D'abord, quand on dit qu'on abroge une loi, ça ne veut pas dire que toutes les dispositions de cette loi doivent disparaître forcément.
Et il est, alors c'est un slogan ?
Mais, ben non, je vais m'expliquer. Et il est des dispositions, le droit à la déconnexion ou le compte personnel d'activité, que je reprendrai dans la nouvelle loi travail. Je ne veux pas remettre en cause la démocratie en entreprise ou la démocratie sociale en entreprise. Elle existait même avant la loi travail. Arrêtons de penser qu'il n'y avait pas de négociation en entreprise avant la loi travail. Elle existait. La question est de savoir si, par exemple, aujourd'hui, on continue à permettre à une entreprise, sur la base d'un accord dans l'entreprise, de pouvoir baisser le tarif des heures supplémentaires de 25 à 10%. Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que le plancher reste à 25%. Est-ce qu'on continue à faciliter les conditions du licenciement ? Je ne le souhaite pas. Et je pense surtout que s'il doit être discuté quelque chose dans cette loi travail, ou cette nouvelle loi travail à laquelle j'aspire, c'est de la souffrance au travail et de la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail, le fameux burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, qu'il faudra discuter des conditions justement de la négociation entreprise par entreprise ou dans les branches des contreparties au CICE, au pacte de responsabilité sur la réduction du temps de travail. Et enfin, je veux vraiment le dire, il me semble que on doit aujourd'hui se préoccuper de rappeler qu'il y a une hiérarchie des normes et que cette hiérarchie des normes fonde aujourd'hui ce qu'a été la démocratie sociale et le droit du travail en France, et je veux rétablir cette hiérarchie des normes.
On quitte Thierry et on accueille John qui lui nous appelle de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Bonjour John, merci d'écouter RTL. Benoît Hamon vous écoute.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour monsieur.
J'ai une seule des simples questions, c'est le RSI. Sur tous les débats que j'ai suivis, je n'ai pas entendu parler du RSI. Je voudrais savoir ce que vous comptez faire sur le RSI. Quand je vois ce que l'on paye par rapport à ce que l'on touche en indemnité, je trouve ça, en tant qu'artisan, bien sûr, hein, j'ai 45 ans, je suis artisan depuis 10 ans, et je me pose la question sur le RSI.
Vous êtes menuisier, hein, John ?
Pardon ?
Vous êtes menuisier, si j'ai bien compris.
Oui, artisan menuisier, oui, depuis 15 ans, ouais. Ouais, ouais.
Moi, je me suis prononcé pour un statut social unique de l'actif, en clair, à revenu équivalent, cotisation équivalente, protection équivalente. Il faut aujourd'hui remettre en cause ce système qui ne fonctionne pas du RSI et faire en sorte que demain, au sein d'un statut social unique de l'actif, comme artisan ou comme salarié, on bénéficie de la même protection selon les revenus que l'on a. Il n'est pas possible qu'on puisse avoir des régimes à plusieurs vitesses qui, à mes yeux, créent non seulement de l'injustice et pour beaucoup de commerçants et d'artisans, un mécontentement légitime. J'ai pris ces positions depuis le début de ma campagne et je les confirme ici.
Donc suppression du RSI ?
Absolument.
On se retrouve dans un instant. Vous continuez de dialoguer avec Benoît Hamon, qui est notre invité. Vos questions au 3210. A tout de suite. Excellente journée à tous.
RTL Matin, il est 8h28. Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Benoît Hamon est avec nous pour répondre à vos questions au 3210. Auparavant, j'en conserve une, si vous le voulez bien. Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il n'y aurait aucun ralliement, quoi qu'il arrive, auprès du futur candidat désigné par la primaire de la gauche. Il dit « Je ne suis pas propriétaire d'En Marche ». Que lui répondez-vous ?
Écoutez, d'abord, il faudra qu'il lève l'ambiguïté. Qui est Emmanuel Macron ? Est-il de droite, de gauche, du centre, mi-droite, mi-gauche ? De quelle pensée il se revendique ? Il me semble en tout cas que dans les positions politiques qu'il porte, s'il devait être élu président de la République, nous poursuivrions la remise en cause des droits de beaucoup de salariés, les conditions dans lesquelles il s'insère sur le marché du travail. Moi, je ne veux pas échanger la fragilité, la vulnérabilité des salariés, leur précarité contre la baisse du chômage.
Mais vous lui déniez une identité de gauche ?
Il devra le dire. Moi, il me semble aujourd'hui que...
Oui, c'est à vous que je pose la question.
Oui, mais moi, il me semble aujourd'hui qu'il est très ambigu sur ce qu'il veut, que ses soutiens viennent de partout, que son projet politique, en tout cas sur les questions économiques et sociales, est d'inspiration clairement libérale, et que je ne vois pas bien, pour être très honnête, en quoi l'Angleterre de M. Blair est en quoi que ce soit un modèle pour la France du 21e siècle.
Ségolène Royal ne le trouve pas ambigu. Hein. Elle a dit ouvertement cette semaine qu'elle le rallierait vraisemblablement. Elle l'a dit.
Bah écoutez, vous allez très très loin.
Éventuellement un peu vite.
Oui, voilà, un peu vite.
C'est candidat, oui, elle a quand même manifesté un intérêt appuyé à l'égard d'Emmanuel Macron.
Mais il ne vous a pas échappé que Ségolène Royal, elle, est venue voter aux primaires. Donc si elle est venue voter aux primaires, c'est qu'elle soutiendra probablement le vainqueur des primaires.
Eh bien, nous le verrons. On va suivre tout cela de très près. Les auditeurs continuent de vous interroger, de dialoguer avec vous, Benoît Hamon. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour monsieur.
Merci de prendre la question. Bonjour monsieur Hamon.
Bonjour monsieur.
Si vous êtes président, je voudrais savoir quelles mesures prendrez-vous pour développer l'activité industrielle. En effet, les mesures que vous annoncez, diminution du temps de travail à 32 heures, revenu universel, laissent penser que vous vous situez dans une logique de décroissance inéluctable de l'activité, alors que nos voisins sont pour la plupart en croissance. Et donc je pense que ce n'est pas un bon signe donné à tous ceux qui s'efforcent de développer des start-up, des PME et des entreprises innovantes.
Alors je voudrais, en tout cas, démentir cette impression, monsieur, si vous l'avez. Le revenu universel, c'est penser la protection sociale de demain, en fonction de ce que je crois être une réalité, ce dont je suis même certain, c'est que l'impact de la révolution numérique va contribuer à raréfier le travail. Est-ce pour autant une mauvaise nouvelle ? On peut raréfier le travail et en même temps continuer à croître. La question est, quel est le contenu de cette croissance ? Celui qui évoquait cela, c'est Barack Obama, dans son dernier discours à la Maison-Blanche, qui évoquait l'impact de la révolution numérique sur la raréfaction du travail. Ce que je crois, et d'ailleurs pour la France nous le connaissons, depuis les années 60, 150% de PIB en plus et 7% d'heures de travail en moins. C'est donc bien une réalité pour ce qui concerne notre pays. Est-ce que ça doit nous amener à abandonner toute ambition en matière industrielle ? Évidemment non. Dans quel secteur est-ce que, par exemple, je souhaite que l'on développe de l'investissement ? Tout le secteur énergétique. L'Europe dépose 40% des brevets en matière énergétique. Les capacités ou les compétences de nos ingénieurs sont considérables. Il me semble que si nous voulons opérer la conversion écologique de notre économie, développer les mobilités propres, faire en sorte que demain, nous soyons beaucoup plus sobres sur le plan énergétique, le développement des énergies renouvelables, le démantèlement de nos centrales nucléaires, dans ce secteur-là industriel, il va falloir croître et croître vite pour pouvoir avoir demain un modèle de développement qui s'attache à faire en sorte que ce que nous produisons ou quand nous le produisons, ça ait un impact qui soit un impact ou neutre ou positif sur notre environnement. Donc, moi, je ne suis pas décroissant ou alors, pour être très clair, oui, je suis pour la décroissance en matière de déforestation, mais je suis pour la croissance en matière de photovoltaïque, en matière d'éolien, en matière de services à la personne, de santé ou d'éducation. Donc, j'ai une ambition industrielle à laquelle je rajoute que je suis favorable, et c'était dans le programme d'Arnaud Montebourg, à un programme de relocalisation de nos activités industrielles, parce que relocaliser nos activités ici, c'est s'assurer que nous sommes sur des circuits courts, c'est mieux sur le plan environnemental, et de surcroît, ça nous permet de créer beaucoup d'emplois.
Merci de votre appel, Jacques. Bonjour, Rémi. Vous nous appelez de Bar-sur-Seine et vous pouvez interroger immédiatement Benoît Hamon.
Oui, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Hamon.
Bonjour, monsieur.
Moi, je suis un électeur de gauche depuis pratiquement 30 ans, puisque mon premier vote, vous voyez, remonte à loin. C'était Pierre Juquin aux élections présidentielles de 88. Alors, ça peut être multiple. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai voté au premier dimanche dernier pour vous. Je revoterai pour vous dimanche. Mais par contre, je sens bien que pour la présidentielle, ça s'annonce mal. Alors ça s'annonce mal entre Emmanuel Macron, dont il vient de parler, là, que je situerai un peu au centre, quoi, Jean-Luc Mélenchon et vous. C'est-à-dire que si vous êtes gagnant dimanche soir, il y aura la grosse hésitation des électeurs de gauche entre vous et Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai bien peur que tout ça fasse des résultats à peu près entre 11 et 15%, et que finalement le Front National, qui a un socle maintenant de 20%, soit au deuxième tour avec la droite qui, elle, y sera. Voilà.
La question, c'est comment convaincre ?
Vous avez raison. D'abord, ouais. Pour essayer d'être convaincant, il faut être convaincu. Moi, je suis convaincu de mon programme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que peut-être, aujourd'hui, les résultats que j'ai enregistrés au premier tour de la primaire sont là. Quand on est convaincu, on est peut-être un peu plus convaincant. Et j'entends bien être convaincant à l'égard des électeurs de gauche, au-delà de dimanche, s'ils me font confiance dans cette primaire. Monsieur a parfaitement raison. Si nous nous présentons aussi divisés, les chances que nous avons de perdre sont quasi certaines. Et de ce point de vue-là, la responsabilité que prend Emmanuel Macron, qui est candidat du centre, mais qui vient de la gauche et qui attire une partie de l'électorat de gauche, est une responsabilité éminente. Il la prend, en dépit du fait qu'il sait qu'il menace concrètement les capacités de la gauche à pouvoir être au second tour, mais nous aurons ce débat-là. Et moi, en tout cas, la tâche qui sera la mienne prioritaire, dès lundi, je l'ai dit, c'est vis-à-vis de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et toutes celles et ceux aujourd'hui qui, dans le mouvement social, dans le mouvement citoyen, veulent construire un projet de gauche, c'est de leur proposer au minimum que nous nous mettions d'accord sur ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare. Et ensuite, nous verrons si nous allons séparer à l'élection présidentielle ou rassembler.
Vous êtes bien candidat à l'élection présidentielle et pas uniquement à la tête du Parti Socialiste. Mmh. Vous savez que c'est une question qui vous est posée régulièrement.
Bah écoutez, si j'avais été candidat à la tête du Parti Socialiste, je n'aurais pas été candidat des primaires, j'aurais été candidat lors d'un congrès du Parti Socialiste. Je l'ai déjà été dans le passé, ça n'est pas ce qui m'intéresse. Et je crois que si les électeurs de gauche avaient eu une seconde, un doute là-dessus, je pense que je n'aurais pas fait 36% au premier tour des primaires. Je crois que c'est le projet politique que je porte qui relève d'une intelligence collective qui explique ce score.
Merci Benoît Hamon d'être venu ce matin dialoguer avec les auditeurs
d'RTL. Merci à vos auditeurs.
Bonne journée à vous et bien entendu, je renvoie à notre soirée spéciale d'élection qui sera menée par Marc-Olivier Fogiel sur l'antenne d'RTL en direct à partir de 19h30. Ce sera dimanche.